Donc actuellement sur la grande scène commence la conférence sur l'imaginaire français, un volume. Donc bonjour à ceux qui sont déjà présents. Donc comme vous avez pu entendre, on parle aujourd'hui de l'imaginaire français, un volume. Pourquoi l'imaginaire français? Parce que quand on parle de littérature imaginaire, on pense surtout aux auteurs américains, aux auteurs anglo-saxons. Donc du coup aujourd'hui on accueille que les auteurs français, j'espère qu'ils vont être là. Parler
de leur expérience, parler de leur livre, parler de leur parcours. Donc on va faire un petit tour de table.
C'est très sympa. Donc moi, je m'appelle Ali Wali, je suis édité chez l'édition Mémos, dans l'imaginaire. J'ai publié deux romans pour l'instant, donc deux premiers tomes d'une trilogie qui s'appelle La Voix de l'Empereur, et c'est la fantaisie.
Alors moi je m'appelle Frédéric Liva, je suis publié aux éditions de L'Homme sans nom, petit éditeur indépendant, et j'en suis au quatrième roman, je pourrais sur le cinquième. Le trois premiers c'est une trilogie de fantasy épique, et qui est un de l'oubli, et le petit dernier ça fait penser un petit peu à Sherlock Holmes à la française, c'est la 25e heure.
Alors moi c'est
Claire Cruz,
je suis chez HSF avec les neiges de l'éternel.
Premier roman qui parle
de fantaisie, mais dans un Japon que
d'Allemagne. Voilà, et moi je m'appelle Estelle Faye, j'ai écrit, ça va être mon sixième roman qui va sortir cette année, dans un peu tous les genres de l'imaginaire. J'ai commencé à prendre de la fantaisie renaissance très rentre-dedans, bien sombre, bien violente. J'ai fait un joli livre très poétique, très solaire sur une merveille chinoise. Un post-apo Pablo, en gros, c'est Paris dans deux siècles, complètement détruit, reconstruit, on s'amuse quand même. Et là, j'ai terminé le troisième tome d'une trilogie de fantaisie historique pendant la fin de l'Empire romain, donc avec plein de mythologies dedans. Une héroïne qui a des dons d'oracle et un héros qui est maquilleur et qui a la poisse aussi, parce que j'aime bien les héros mecs qui ont la poisse. Voilà.
Donc, français ici aujourd'hui. Donc on va commencer par parler de votre parcours en tant qu'auteur d'imaginaire. Est-ce que certains d'entre vous avaient rencontré des difficultés donc à vos débuts, vous avez trouvé un éditeur, ou est-ce que ça a été plutôt facile?
J'ai rencontré. En fait, je suis venue à l'édition par un biais un peu particulier, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. Il n'y a pas de gens dans le monde. Je faisais une école de scénario, et en dernière année, je m'ennuyais beaucoup. On faisait des lectures de scénario, c'était très bien organisé, c'était dans les 5 milieux. Et donc là, j'ai participé à un appel à texte, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, dans les littératures de l'imaginaire, un truc qui est super sympa, c'est qu'il y a plein d'anthologies nouvelles qui se mettent. Et souvent, les anthologistes qui montent ces rencontres dans les livres font des appels à texte, c'est-à-dire ils montent des nouvelles et des jeunes auteurs complètement inconnus peuvent envoyer parfois à des grosses maisons d'édition bien installées et ils vont se retrouver publiés, comme ça m'est arrivé, dans la même auto que les figures du milieu. Quoi. Donc voilà, ça m'est arrivé. Ma nouvelle a été remarquée par un directeur de collection, un très grand monsieur, qui s'appelle Xavier Bouméjean, qui m'impressionnait beaucoup avant et qui m'impressionne toujours depuis d'ailleurs. Et en gros, qui m'a dit, toi, tu ferais écrire du roman, et quand c'est un aussi grand monsieur qui vous lit, voilà, on regarde ses pieds et on dit, oui, je peux t'envoyer deux, trois trucs. Voilà, et c'est ce que j'ai fait, et ça a été mon premier roman, et ça s'est pas arrêté de
moi. Moi, c'est un petit peu plus classique, en fait. Je fais partie des normales, des normaux. En fait, j'ai toujours écrit quand j'étais petite, et toujours rêvé d'écrire un roman, d'être publié. Et après avoir retouché donc les lettres de l'éternel pendant 8 ans, c'était une nouvelle. Mais en fait, quand j'ai commencé, j'étais au lycée, donc je suis revenue dessus beaucoup, donc énormément de travail à faire. Et j'ai envoyé à l'HUSF, parce qu'on pouvait envoyer par mail, donc il m'a fait tout imprimer. Et j'ai eu une réponse dans le mois et demi par Facebook, puisque Jean avait perdu mon mail, pour la petite anecdote. Et je suis lancée très vite. Je n'ai pas envoyé énormément d'éditeurs, donc ça a été assez facile.
j'ai fini par abandonner en fait. J'avais commencé un roman, puis j'avais commencé un autre, de fantasy cette fois. Et au bout d'un moment, je me suis découragé. Et après mon master 1, j'ai pris un essai sabbatique. Je me suis dit, merde, j'ai fait le calcul en fait. Soit j'essaye et j'ai une chance d'y arriver. Comme ça, pour moi, ça va faire. Soit j'ai une chance d'y arriver, soit j'essaye pas du tout et c'est mort pour la vie. Donc j'ai essayé. Et pareil, pour le mois et demi qui a suivi, en fait, j'ai une réponse de Ménos et puis un mois plus tard, le premier était sorti et j'ai découvert les deux.
Bon, moi, c'était plus difficile. J'ai eu un parcours assez chaotique de manière générale. J'ai commencé par faire du théâtre, ensuite j'ai fait une école d'illustration assez pointue à Lyon. Et à la fin de ce cursus, je suis reparti à zéro dans mes études. En gros, j'avais le dessin dans les mains et il me manquait quelque chose d'un petit peu plus cérébral. Je suis reparti à zéro en histoire de l'art, archéologie. Donc je suis devenu archéologue. Et en fait, en parallèle, donc pendant une dizaine d'années durant, j'ai écrit en parallèle de l'archéologie. Et avec chaque année un emploi traditionnel aux différentes maisons d'édition du secteur. C'est un secteur dont j'ai vu l'évolution. J'ai commencé à envoyer en 2006, où là il y avait effectivement quelques maisons d'édition, on va dire historiques aujourd'hui. Donc Nemos, QSF, Pour les fins de l'imaginaire, Référent, De Brincon. Mais sorti de ça, il y avait assez peu d'éditeurs qui permettaient de publier dans les genres qui touchent à l'imaginaire. Et donc pendant 6 ans, chaque année, j'ai renvoyé le manuscrit de mon premier tome, Quelqu'un de l'oubli. Reçu pendant 6 ans des réponses négatives avec des points à retravailler, donc qui m'ont encouragé, je dirais, à continuer malgré tout sur la lancée, sur la voie, jusqu'au jour où un éditeur m'a dit oui. Donc je suis parti avec lui, c'est un très mauvais éditeur qui heureusement a fait faillite, qui m'a permis de récupérer les droits d'exploitation et de relancer. Et j'ai tourné avec lui pendant un an, j'ai vite appris à comprendre la différence entre un bon éditeur et un mauvais éditeur. Et du coup, j'ai ciblé d'autant plus encore mes envois pour cette deuxième partie, je dirais, du cours, où là, j'ai reçu effectivement des réponses positives de la part de différentes maisons d'édition du secteur. Entre ces deux périodes, j'ai vu aussi l'évolution du milieu de l'édition. C'est-à-dire que là, depuis les années 2010, il y a une explosion de petites maisons d'édition indépendantes. Il y a forcément moyen pour tout le monde, je dirais, de trouver l'éditeur qui va permettre de faire avancer quoi, dans le milieu de l'édition. À partir de là, donc, chez les éditions de l'Homme sans nom, j'ai commencé à publier le premier roman, deuxième, troisième, j'en suis à 4 publiés, le cinquième est en cours. Donc là, c'est bon pour moi, je dirais que c'est parti dans l'aventure.
Je suis,
justement,
il y a eu une évolution,
je ne
sais pas,
justement,
au niveau de littérature imaginaire, la manière dont les éditeurs et le public vont dessus. Est-ce que, par exemple, pour les autres, vous avez exactement remarqué la même chose dans cette évolution ? J'ai l'impression que le public et les éditeurs français sont plus ouverts, justement, à l'imaginaire et aux auteurs français dans ce domaine.
Pour la vision dans mon parcours, je suis auteur depuis pas très longtemps, mais par contre, je suis une grosse lectrice, une grosse fan de littérature imaginaire depuis toujours. Et j'ai commencé à m'intéresser aux auteurs français à une époque où ils étaient très très peu publiés, et où même, alors que je suis pourtant une fan donc, du Seigneur des Anneaux, alors que je faisais déjà de finalement, je savais même pas, quand j'ai commencé à lire, que les auteurs français d'imaginaire, ça existait. Je parlais 20 ans assez loin, ça remonte à avant les années 2000, j'en sais bien. Et un jour, au fin fond du sous-sol de Gibert, c'était à l'époque quand l'imaginaire était relégué au sous-sol de Gibert, dans Paris, ce qu'on connaissait. Dans un rayon occasion, je tombe sur un petit poche qui était la première série de poches de Nemos. Et c'était Chronique des Deux Poussières de Mathieu Gabaud. Car les tout premiers livres à vraiment avoir fait exister de la fantaisie en France et surtout à l'avoir fait exister avec l'époque fantaisie. C'est-à-dire en tant vraiment de gens qui arrivaient avec des collections dédiées et des collections dédiées vraiment squattées par les auteurs français. Et là, je lis ce livre et déjà je découvre un qu'il y a des auteurs français qui existent. Que dans la même collègue, il y en a plein, c'est génial. Enfin, en tout cas, il y en a pas mal, mais qu'en plus, c'est vachement bien. Et aussi, ce qui m'a touché, c'est que par rapport aux univers anglo-saxons, chez les auteurs français, tout de suite, dès cette époque, il y avait une inventivité, il y avait quelque chose qui allait beaucoup plus loin dans le genre, qui est vraiment cassé beaucoup plus les codes, mais qui en même temps les connaissait très bien aussi. C'était les auteurs, quand ils écrivaient, et quand ils écrivent toujours, ils mettaient vraiment leur truc sur la table. Il y avait un côté super personnel, et en même temps, c'était de la vachement bonne poésie.
Donc, tout de suite, je suis devenue une grosse fan de la fantaisie française. J'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main. Donc, pour ceux qui se souviennent de ces temps, justement, oui, en effet, c'était une époque où les éditeurs qui publiaient des Français, il y en avait moins et c'était difficile à trouver. C'était l'époque de Nancy Kennedy. T'as dû connaître. Donc, pareil, enfin, les petits de Nancy Kennedy avec des couvertures hideuses qui, effectivement, ne correspondaient pas à l'intérieur du livre. Mais dedans, il y avait des romans géniaux. Et voilà, tout ça que j'allais chercher à l'époque d'avant, justement, donc les commandes de livres sur Internet aussi, donc c'était vraiment rodé dans les librairies d'occasion et tout, je ne savais même pas qu'il y avait des librairies spécialisées sur Paris, c'est dire. Et quand je suis revenue en tant qu'auteur, j'ai vraiment vu l'évolution d'un paysage, d'un moment où ça commençait à peine à exister en France, à un moment où maintenant il y a des éditeurs très sérieux, qui font super bien le boulot, où il y en a plein, où il commence à y avoir une vraie visibilité du genre, au moins au niveau du milieu littéraire. Et j'espère que maintenant pour moi la prochaine étape, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est arriver à dépasser le milieu des connaisseurs de l'imaginaire, le milieu littéraire où je pense que maintenant les Français sont connus et reconnus, pour aller plus loin et pour vraiment maintenant commencer à dire au grand public, hey, il y a aussi des Français qui en font et ils le font vachement bien. Et ça, vraiment, c'est la prochaine étape.
Dans la mesure, du coup, j'en sais absolument rien parce que j'ai comment dire, commencé à connaître ce milieu à partir du moment où j'ai été publié, en fait. Je n'ai jamais beaucoup lu de fantasy, j'ai arrêté à accepter de lire, donc j'ai pas pu voir cette évolution dont tu parles, j'ai pas pu voir l'évolution dont tu posais la question, est-ce que les maisons ont évolué, est-ce que l'ouverture a évolué. En revanche, j'aime bien le dernier point qu'a souligné Estelle sur la reconnaissance par le grand public de la fantasy et de l'imaginaire en général, qui est très frustrant, et j'en parlais il y a 5 minutes avec Julie Proust, une autre auteure de chez Lindé. C'est la manière dont on a clivé en fait les catégories et les genres de manière totalement conventionnelle, artificielle et arbitraire. Trois synonymes, vous savez. C'est très frustrant d'entendre des gens dire « Ah, mais je n'aime pas la fantasy ou la SF parce que je préfère la grande littérature. » Balzac, Flaubert, nos parents, ils ont tous fait l'imaginaire. Donc, et je pense que c'est aussi une responsabilité qu'on a, nous, les auteurs, et les lecteurs et éditeurs de l'imaginaire, de faire comprendre au grand public qu'au-delà des clichés, des préjugés, des facilités, surtout de mépris qu'on peut avoir par rapport au genre, d'expliquer que non seulement tout le monde, enfin, chez les grands quasiment, a touché à l'imaginaire d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec Blanla, La Peau de Chagrin, Salambo, Jules Verne, enfin bref, on peut en citer des milliers. Faire comprendre que oui, les littératures de l'imaginaire ne sont pas juste une niche en fait. Tout le monde y a goûté à un moment donné, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et je pense que c'est important de faire passer ce message.
Alors là où il y a quelque chose d'assez symptomatique, quand on rentre dans une librairie, c'est. Pour rejoindre ce que tu viens de dire, les auteurs classiques de l'imaginaire, on va les retrouver côté littérature blanche. Donc en fait, quelqu'un qui vient acheter 20 milieux sous les mers de Jules Verne, Ubik, de Kadic, Spat, 1984, d'Orwell, il va aller le chercher du côté de la littérature blanche. Et nous, en tant qu'auteurs de l'imaginaire, on est relégués quelque part, effectivement. Effectivement, les rayons de l'imaginaire aujourd'hui occupent une bonne place, mais on fait toujours une bonne distinction entre. Bon, la littérature sur laquelle tout le monde peut aller, on est bien d'accord, et puis les autres. Effectivement, moi je travaille à l'heure actuelle sur un projet fin 19e. Fin 19e, on a entre autres Jules Verne, on a Grenier-Aîné, on a Huysmans, on a tous les auteurs classiques qui ont été tapés aussi sur du fantastique bien. C'est l'origine de la littérature de l'imaginaire. On a suivi ces courants-là et on les a même précédés dans un certain nombre de domaines. Grenier-Aîné, Jules Verne, c'est vraiment des précurseurs au niveau de la science-fiction. On appelait ça du merveilleux scientifique à l'époque. Pourquoi, à un moment donné, en France, on a fait tomber une barrière en disant « Ici, il y a les gens sérieux et ici, il y a les autres. » Alors les autres, c'est nous. Et effectivement, on se bat aujourd'hui pour exister. Et il y a véritablement une soif, une adhésion aussi côté électorat qui fait que ce genre est en train de sortir un petit peu de l'ombre.
J'aimerais aussi, par rapport à ce que tu viens de dire sur conquérir un peu un public qui ne lit pas l'imaginaire entre guillemets comme nous on publie, avec une petite anecdote. En fait, ma grand-mère, à la base, ne lit pas du tout son dessin comme rien. comme moi, j'ai une grosse bibliothèque, forcément, de ça, je me dis, tiens, essaye, prends un livre, c'était l'anthologie de Troll et légendes, d'ailleurs. Et essaye, et elle a adoré. Elle a adoré, tout simplement. Et le problème, c'est que pour elle, dans sa tête, le fantasy, la science-fiction, c'est... Elle rattache aussi beaucoup ça aux films qu'on voit à la télé, aux films, grands films américains, même aux Marvel, etc. Dès qu'elle voit des pouvoirs magiques, X-Men, et ce genre de choses. Et du coup, c'est forcément du grand spectacle, c'est forcément de l'action, quelque chose qui n'est pas littéraire, qui est grand public, populaire. Et du coup, elle ne trouve pas fort d'aller lire, etc. Alors qu'en fait, maintenant, elle m'emprunte régulièrement des livres de fantasy française. Comme quoi, finalement, les gens, en fait, c'est vraiment juste qu'il faut réussir à leur donner une petite poussée pour qu'ils aillent vers cette littérature. En ce qui me concerne, c'est vrai que niveau fantasy, j'ai commencé à en lire très jeune. Et je ne savais pas que c'était de la littérature, enfin, de fantasy française. Jusqu'à la date, c'était Pierre Bottero, Nick Lohan, Jean-Louis Fégen, ce genre de choses. Bon, j'étais jeune, donc forcément, c'était plutôt littérature jeunesse. Et après, quand j'ai grandi, je me suis rendue compte, aujourd'hui, je me rends compte que je suis directement allée sur des livres comme Image Love, avec forcément le fait tous les grands auteurs américains. Certains, que j'adore toujours, hein, d'autres avec leur cul, quand je me dis, bon, en fait, maintenant, quand je lis la littérature française, c'est vraiment une façon de traiter les mondes imaginaires et les évolutions des personnages de manière vraiment très différente. Et aujourd'hui, c'est en cherchant du coup à faire publier mon livre que j'ai rencontré les maisons d'édition, que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est vachement bien, en fait. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est vachement bien.
Là, dans la plupart des discours en intention, on a pas mal des clichés, justement, de littérature imaginaire. Est-ce que vous avez l'impression que cette idée du cliché est vraiment assez propre de l'imaginaire français et qu'il y a une bonne relation de l'imaginaire qui est dans les actions américains, ou vous avez l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est assez généraliste du genre?
Alors je pense qu'effectivement, en vrai, c'est donc quelque chose d'assez franco-français pour ce clivage. On aime bien, on aime bien en général catégoriser. On reste en France assez attaché à notre côté rationnel, notre côté scientifique, académique. J'ai rencontré assez peu de lecteurs anglophones en salon ou en dédicace, mais ça arrive. Et très franchement, on a la sensation que pour eux, que ce soit de l'imaginaire ou du témoignage de vie, c'est la littérature, c'est là pour passer un bon moment, pour apprendre quelque chose, pour s'évader. On est moins dans le... C'est moins sectaire comme manière de voir les choses. Je ne sais pas de quoi ça vient, mais c'est... Sincèrement, on a la sensation quand même qu'en France, il y a effectivement une barrière.
Là, je
me
permettrai de
lancer
avec ma propre expérience, cette fois plus du côté scénario et théâtre, qui est toujours. C'est-à-dire en scénario et en théâtre, j'ai été dans des écoles françaises et aussi donc, j'ai travaillé avec l'un des principaux professeurs de scénario de la fac de New York, je ne me souviens plus. Et j'ai aussi fait du théâtre dans l'American Conservatory Theatre, qui est la grande école de théâtre de San Francisco. Donc je suis vraiment à l'école de l'autre côté, quoi, ce qui se passait. Et là, j'ai eu une expérience qui était double, c'est-à-dire que certains grands groupes imaginaires français qui sont assez déconsidérés ici, par exemple, je suis grosse fan de Cocteau, pour ceux qui connaissent, la Belle et la Bête. Quand je dis que je suis fan de Cocteau, il y a d'autres gens qui font du cinéma en France. En général, on regarde de travers. Dans mon école, par exemple, j'avais fait un court-métrage, on m'a dit « Oh là là, ça, on dirait que Cocteau, c'était censé être une chose. » Alors que, quand je suis allée à San Francisco, là-bas, notamment, leur grand auteur de théâtre, juste, c'est celui qui a fait Angels in America. Angels in America, c'est complètement inspiré de Cocteau, quoi. C'est vraiment une de leurs grandes références. Donc, les grands voix de l'imaginaire français, Cocteau, Julliard, et aussi, même Baudelaire, par exemple, pour ses traductions de poèmes, sont connus et reconnus effectivement plus de ce que j'ai vu aux États-Unis ici. Mais après, dans le monde anglo-saxon, il y a aussi, par exemple, ce que j'ai vu du côté de la fac de New York, qui est par contre un mépris de littérature de l'imaginaire et un mépris plus généralement de toute histoire qui n'est pas, comment dire, un peu qui n'est pas hyper réaliste, hyper autobiographique, etc. Que ça, pour le coup, je ne l'ai même pas vu en France. Vraiment. Et c'est, par exemple, donc avec ce professeur new-yorkais, on faisait des lectures de scénarios et en gros, il demandait qu'on fasse des scénarios sur des choses qui me donnaient énormément à cœur. Moi, le truc qui me vient plus à cœur dans ma vie, c'est ma relation avec mon père. Enfin, c'est pour lui que j'ai commencé à raconter des histoires. On a une relation hyper forte, c'est vraiment ça qui me fait vivre. Et donc, j'ai écrit l'histoire de deux frères pendant un siège de château canard, avec un peu de surnaturel. Parce que si, je vis dans le surnaturel, et par ailleurs, j'ai des racines en toute la France. Bref, c'était hyper personnel. Premier cours, le gars de New York arrive et dit: vous avez tous très bien fait l'exercice, sauf une qui a fait quelque chose de commercial, qui a fait quelque chose que je ne veux plus lire d'ici à la fin de l'année. Et c'était moi. Et avec vraiment un mépris qu'en France, je n'ai jamais vu. Donc, comment dire, évidemment, le monde anglo-saxon, il fait envie parce qu'on a l'impression qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Mais il est, disons, assez double. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties qui sont très ouvertes, mais d'autres qui sont beaucoup plus fermées, même ici. Ou j'ai un ami anti-réalisateur aussi, qui a fait quelques courts-métrages de science-fiction et de post-apo qui ont vachement bien marché. En France, qui a essayé de produire des choses de l'autre côté de l'Atlantique. Et pareil, il a eu un parcours vraiment beaucoup plus chaotique que ce qu'on pourrait penser. Donc, allons-y.
Alors, pour le monde américain, je saurais pas trop en parler parce que je ne suis jamais allée et que je n'ai que la vue des livres qui sont publiés en France. Par contre, pour le côté français, moi j'ai fait des études universitaires en lettres modernes et un bac littéraire. Et au cours de cette étude, j'ai rencontré par exemple plusieurs personnes à qui il m'est arrivé de parler. Oui, j'écris, voilà, c'est de la fantaisie, c'est pas l'histoire d'une langue classique. Sur le coup, on n'a pas forcément dit que je suis en mode du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière, notamment avec la réflexion, une fois, j'ai une très bonne amie qui m'a dit ça, et qui m'a dit que la fantaisie, ce n'est pas la littérature. Bon, voilà, j'ai pas dû lui dégager la tête, mais c'est pas grave. Et à partir de ce point-là, je me suis rendu compte que. En fait, le problème avec elle, c'était que j'en plus, je lui avais fait lire, c'était tout début des Neiges de l'Éternel, et elle avait beaucoup aimé, elle avait adoré. Et en ayant lu, en sachant que c'était de la fantaisie, et enfin, en ayant lu moi ce que j'avais écrit, elle avait lu d'autres bouquins de fantaisie publiés, et qui sort ensuite, voilà, la fantaisie, c'est pas de la littérature. Alors, c'est vraiment complètement des clichés d'une personne en plus qui se disait prédominante. Je n'ai toujours pas aujourd'hui compris pourquoi exactement tout ça venait. Malheureusement, elle n'est pas la seule. Heureusement aussi, tout le monde n'est pas comme elle. Il faudrait réussir à intéresser les gens pour qu'ils sortent de ce clivage, de ce préjugé. Malheureusement, ce n'est pas forcément très facile. Ouais.
Malheureusement, c'est assez tragique avec des milieux, notamment des milieux universitaires, on se dit qu'il y a des chercheurs, des gens, des études de philosophie, donc des gens qui. Travailler leur capacité d'abstraction, je les ai rencontrés. Et paradoxalement, j'ai rencontré énormément de personnes dans ce milieu-là qui, pareil, étaient absolument incapables de comprendre l'intérêt d'un roman imaginaire parce que c'est déjà dans le monde. Bref, un peu dans la merde. Et c'est d'autant plus troublant que c'est ces personnes-là qui. La philosophie fonctionne dans certaines branches, notamment en philosophie morale, par expérience de pensée. Donc, plus on construit des scénarios farfelus pour essayer de mettre à mal nos positions réelles sur des questions comme l'euthanasie, la perversion, c'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire, mais malgré tout, ils nourrissent quand même un certain. Je généralise, je l'ai rencontré pas mal, pas tous évidemment, ils nourrissent un certain mépris par rapport à l'imaginaire. Mais par rapport à la question du cliché, je ne sais pas si on a vraiment en France une sorte de curiosité, de peur de l'imaginaire à cause des clichés qui peuvent être véhiculés. Le fait que tous les héros fantasy sont des orphelins, des trucs comme ça, je m'en moque parce que moi j'ai essayé, j'ai pris une liste de clichés pour mon premier roman et je me dis je vais pas faire ça. Boum, il y a quand même un qui est passé, mon héros, plein de mes héros est un orphelin. Je sais pas comment j'ai pu laisser passer ça, mais je pense que c'est parce que les clichés en fait c'est une manière de construire des personnages aussi. Pourquoi est-ce qu'il se casse de chez lui? Parce qu'il a absolument rien à faire chez lui, il n'y a plus personne. Pourquoi est-ce qu'il est socialement inadapté? Parce qu'il a perdu ses parents, bref. Il faut trouver, je pense, dans tous les clichés, même les clichés les plus véreux, les plus cruels qu'on imagine dans l'imaginaire, dans la littérature en général, qu'on peut trouver des raisons, en fait, des mécanismes scénaristiques qui les justifient complètement. Voilà.
Oui, j'ai réfléchi à un autre truc pendant. Donc je te rejoins, Estelle, effectivement, les États-Unis, pour, enfin, j'y suis resté quelques mois, c'est la sensation qu'on a là-bas, c'est le pays des extrêmes qu'on va trouver vraiment tout l'un et tout l'autre. Alors, autre expérience, moi je fais beaucoup de dédicaces en librairie, beaucoup, c'est plus de 100 jours par an, donc c'est vraiment une grosse expérience du terrain. Et la réaction que j'ai de lecteurs de manière générale, donc pas forcément des lecteurs de l'imaginaire, bien au contraire, c'est de reléguer quelque part le monde de l'imaginaire à l'enfance, au mieux à l'adolescence, et après bon, on devient adulte, donc on va s'intéresser à des choses un peu plus qui nous servent au quotidien, enfin genre 50 millions de degrés.
Tu reviens Et du coup, on associe partie par, enfin, voilà, par association. C'est littérature au jour de l'enfant, alors que les parents, Harry Potter, mais il y a énormément d'adultes et d'enfants qui ont grandi aujourd'hui qui adorent toujours Harry Potter. Simplement, en catégorie.
Justement, pour les,
j'espère que ce genre de choses va continuer à évoluer et disparaître, parce que ça n'a pas grand intérêt, ça n'a pas grande valeur pour moi. Ça ne se donne pas d'écriture d'un bouquin, ou d'un film, ou n'importe quoi. Je veux dire, il y a plein de films et de réalisations qui sont fantastiques, oui d'accord, mais ça ne ressemble à absolument aucune autre œuvre de registre fantastique, et ça n'a aucun intérêt.
Moi, je ne suis pas théoricien du genre, mais j'ai la sensation, pour répondre à ta question, que fantastique et merveilleux, pour rejoindre ce que tu disais, ça correspond à des genres et à une époque littéraire où en France, justement, on était force de proposition. Là, aujourd'hui, c'est plutôt le milieu anglo-saxon qui est précurseur, et donc, assez naturellement, on reprend les termes qui ont un peu forgé, juste pour pouvoir parler de différents sujets, donc, si on parle du cyberpunk, si on parle de n'importe quelle catégorisation en science-fiction, fantastique. Aujourd'hui, les genres qui sont créés sont des genres, à la base, on va avoir plus dans les mondes anglo-saxons, et donc on se contente quelque part de les reprendre à notre compte. Hein.
Le problème aussi, je trouve, en reprenant toutes ces catégories, c'est parfois, entre justement la high fantasy et la low fantasy, on s'y perd un petit peu. La première fois que j'ai entendu ce terme, alors ça correspond quoi en fait à ça, c'est ça, et on se rend compte qu'il y a énormément de ces catégories qui en fait se recoupent, que ça reste de la fantasy, et parfois... par exemple, mon livre, à la base, je prenais comme une fantaisie. Donc, en fait, c'est un monde imaginaire, c'est que c'est un monde très tiré du réel dans lequel il n'y a pas de magie inhérente. Donc, en fait, c'est quand même plutôt fantastique. Enfin, du coup, il faut. Le fait qu'on ait trop d'idées, c'est que. Je perds ce livre, mais c'est pas grave. En gros, quand, par exemple, pour prendre l'exemple de mon livre, en fait. Et j'ai encore peur de ce que tu disais.
C'était sur les catégorisations, si tu reprends.
Non.
Juste, il y a un point sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec toi, c'est sur les catégorisations qui viennent de l'anglo-saxon. Oui, à la base, le terme fantasy qu'on a pris est un terme anglo-saxon, même si après il y a des tentatives pour faire des orthographes bizarres, genre fantasy avec un chat. Mais disons, il y a des catégories qui déjà. J'ai l'impression que maintenant, en tout cas, il y a des catégories qui viennent de France. C'est les Français qui créent des catégories pour eux-mêmes, même si ce n'est pas des catégories forcément d'auteurs français à la base. Par exemple, si la mémoire est bonne, parce que ce n'est pas genre quand je suis spécialiste, mais il me semble que Lilith, à la base, c'est en France qu'on l'a trouvé. Voilà.
À la base, c'est le nom de la collection.
Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de catégorisations qui viennent de l'anglo-saxon qui sont avant tout, des petits stickers éditoriaux, mais qui signent finalement beaucoup plus la volonté des éditeurs anglo-saxons d'absolument contrôler quelque part les gens qui font, que vraiment la venue de super nouveaux genres, parce que le... Enfin voilà, en tordant les mots, on peut faire des super nouvelles catégories, simplement de fait, les éditeurs ne sont pas forcément novateurs. Et quelque chose que j'aime bien avec les éditeurs qu'on a en France, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi ici, c'est qu'avant tout, j'ai des éditeurs avec qui je bosse qui veulent faire, c'est publier de bonnes histoires. Et c'est publier des histoires qui aient de la personnalité, c'est publier des histoires qui soient vraiment passionnantes pour le lecteur. Et c'est pas trouver le nouveau créneau sur lequel il peut faire écrire 18 auteurs après, quoi. Et le nouveau créneau absolument vendeur. Donc c'est peut-être pour ça que justement les catégories aviennent du nouveau anglo-saxon, parce qu'en fait, sur ce coup, c'est eux qui sont à la ramasse et c'est nous qui sommes les plus simples. En tout cas, j'en dis pas.
Pour recevoir, pour pas se relancer une chose, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions un peu à poser, hein? Je vais les comptes avant, pour savoir par rapport au temps, pour avoir la conférence qui sera derrière. Et que sur la personne après, oui, on va quand même lancer une petite dernier point. Imaginaire français, comment vous le voyez pour plus tard, justement? Comment vous l'espériez? Et comment vous pensez qu'il peut évoluer par rapport aux données qui sont actuelles?
Ah, c'est mon côté archéologue qui va parler. Je pense qu'en France en particulier, en Europe de manière générale, on a une culture, on a une histoire qui est tellement ancienne qu'on a vraiment un puissant fond d'inspiration. À la différence des Américains par exemple, qui, on le voit en ce moment, ont tendance quand même beaucoup à tourner sur le même modèle. Donc, au moins, l'imaginaire français restera quelque part la zone refuge dans laquelle, comme tu le disais Estelle, vu le travail des éditeurs qu'on a en France, ils sont là systématiquement pour chercher la bonne histoire qui prend des sentiers, voilà, qui sort des sentiers battus, qui va aller explorer de nouvelles voies, parce que c'est aussi quelque part notre esprit pionnier. On reste, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, on aime bien les étiquettes, on aime bien aussi foutre la zone et aller voilà, tout remettre en question et débroussailler et reconstruire, etc. etc.
Ouais, alors l'avenir de la science de la fantasy aussi, j'en ai parlé. J'imagine. J'aimerais bien qu'il soit complètement noyé dans le reste. Genre un distinct. Ouais. Comme ça, je voudrais que pas noyé au sens tragique du terme, mais j'aimerais qu'on arrête de dire j'aime la fantasy, ou j'aime la SF, ou j'aime la littérature blanche, ou j'aime les autobiographies. Ça ne veut rien dire. Je prends l'exemple avec le cinéma, parce que j'ai vu beaucoup plus de films que je n'avais dit, beaucoup plus. Et ça n'a aucun sens. Je dis pas j'aime les films d'horreur ou j'aime les films de science-fiction. Non, j'aime les films en fait, point. Et j'aimerais bien que ce soit pareil avec les littérature.
Je pense que ça peut être déjà le cas pour certains lecteurs. Il faut juste que ça s'élargisse à plus de lecteurs. Je te rejoins, c'est vrai que j'aimerais que ça continue comme ça. Ensuite, j'aimerais surtout que ça continue comme on est maintenant, que les gens aient énormément qui écrivent, qui n'envoient pas forcément les bonnes éditions, mais qui écrivent en fantasy, en fantastique. Et j'aimerais que ça continue à lire, à écrire, et c'est comme ça qu'il va y avoir des nouvelles bonnes idées, des nouvelles très bonnes histoires, et je pense que la fantaisie française va faire une bonne idée.
Je crois que j'ai un petit truc, enfin ça vient peut-être, ton côté archéologue j'aime beaucoup, moi à côté j'ai un petit côté audiovisuel, et ce que j'aimerais pour l'avenir, vraiment un des enjeux pour moi pour les prochaines années, c'est d'arriver à faire passer tout le fond d'imaginaire qu'on a en littérature en France, où on a des super éditeurs, des super auteurs, des super lecteurs, un super public, aussi une sphère d'internet hyper active, vraiment fait vivre les villes, ça c'est génial, et d'arriver à faire passer ça dans l'audiovisuel. Que maintenant, ce qu'on voit ici comme vie énorme littéraire, ça passe dans des séries télé, ça passe dans des films. Et pas des films qui soient en one shot et puis ils s'en aillent, quoi. Pas une série télé qui soit tellement, en ovni que de toute manière, ça ne peut pas faire école. Je veux dire, quelque chose comme Kaamelott, c'est génial,
Le problème, c'est que c'est un ovni, ça ne fait pas une école, ça ne fait pas toute une école du fantastique ou de la fantaisie audiovisuelle française. Et vraiment, c'est une des choses, je ne sais pas comment on peut y arriver. J'essaye à mon petit niveau de faire bouger les choses, je pense que de toute manière, on en est tous là à faire bouger les choses à notre petit niveau. Mais vraiment, aller vers le monde de l'audiovisuel, dire, là, il y a un gros réservoir d'histoire, d'imagination, de gens qui, en plus, savent écrire des scénarios super carrés, vraiment des scénarios qui fonctionnent. Est-ce que ça, on ne peut pas le faire passer aussi dans d'autres médias que la littérature? Et c'est un des gros enjeux pour l'avenir.
Et les vidéos, mais ça, c'est déjà un peu.
Ça, on
en
a déjà.
Qui
c'est qui
lui
posait
des questions?
Moi, je voulais revenir sur ce que Léo disait pour la littérature blanche. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le fait que, en fait, la littérature blanche nous polie complètement toutes nos lettres de noblesse? Tous nos grands auteurs, comme Jules Verne, Asimov, tout ça, c'est des auteurs qui ont posé des bases scientifiques et littéraires énormes. Et bien, tout ça, c'est récupéré par la littérature blanche et on est spolié, quoi. Et du coup, tous ces titres-là qui pourraient faire connaître la fantaisie, la science-fiction de cette littérature-là, et bien, ils assimilent à des trucs de classiques et du coup, on n'en profite pas, quoi. Du coup, c'est la merde.
Cette question, c'est une réponse simple.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Très concrètement, moi, c'est un comportement que je vois au quotidien en librairie. Des gens qui me snobent, mais de manière superbe, qui vont repartir avec, encore une fois, c'est un exemple, c'est qu'il a d'hier, le Bic de Gallic, qu'ils ont été cherchés en littérature blanche. Donc là, c'est un petit peu aussi la faute, quelque part, des libraires et de toute la chaîne du livre qui joue ce jeu-là. Quoi. Pourquoi ces auteurs, pourquoi ces classiques ne sont pas là où ils devraient être, dans les rayons science-fiction, fantasy, fantastique? Pourquoi on ne voit pas du Hugo en fantastique? Parce qu'il a écrit des choses complètement fantastiques, et ça n'a rien à foutre en littérature blanche, on est bien d'accord.
Peut-être aussi, il y a une question de, à l'école, on apprend Hugo, on apprend Jean-Pierre, et on ne dit pas que c'est... Enfin, j'ai jamais appris que c'était pas forcément que de la littérature blanche, parce qu'on peut faire tout le temps. Et
c'est, du coup, en grandissant aussi, j'ai longtemps pensé que c'était la littérature générale. Alors, c'est là. Bonjour. Alors, je n'ai pas été là au tout début de la conférence, donc peut-être que vous en avez déjà parlé. Mais dans mon cas, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature de l'imaginaire tardivement. Parce qu'en fait, quand je suis à l'école, on me dit que c'est lire des classiques qui étaient très indigeste, du Molière, du Zola, et quand on est jeune, ça vous dégoûte un peu. Donc je me dis que c'est aussi un peu la faute du CV, par l'éducation. En fait, si je me dis que s'il y a peut-être moins de gens qui lisent, c'est justement parce que l'école était tellement dégoûtée, certains classiques étaient, qui sont bons, mais qui ne sont pas adaptés pour des enfants. Et donc, en fait, on va un peu changer les livres à donner à l'école, je pense.
Alors, je rejoins complètement ce que tu dis, parce que quand je vais en primaire, quand je n'ai pas la lecture, alors qu'aujourd'hui, je suis dans l'ordre d'une lecture. Pourquoi? Parce que, alors, je n'ai pas forcément les classiques, mais c'était des livres qui ne faisaient absolument pas rêver, et moi, j'avais besoin de ce côté fantastique. Et c'est quand ma grand-mère m'a défendu, elle est en campagne de bibliothèque, et c'est là que je tombais super heureux. D'ailleurs, j'ai lui donné un nom. Et là, je sais pas, mais la lecture, c'est ça aussi. C'est ça que je veux. Mais on ne l'a jamais. J'arrive à découvrir entre nous.
Alors, moi, je rencontre aussi des profs en dédicace qui cherchent. Je pense que ça tendance à évoluer, en fait, ce que tu viens de dire. C'est que je te rejoins complètement. Moi, je fais partie d'une génération où on a effectivement bouffé du classique et rien d'autre. Et je trouve que surtout en plus de profs, collège, lycée, surtout collège, qui cherchent des titres pour pouvoir intéresser leurs élèves. Et souvent des profs qui sont de nos générations, donc qui ont grandi avec l'imaginaire et qui cherchent aussi à transmettre par l'imaginaire le goût de la lecture. Et donc de plus en plus, Botero fait partie des auteurs qui commencent à passer en cours, Barjavel, voilà, Barjavel, c'est un peu blanche aussi, c'est à côté de là. Mais donc je pense que ça, c'est des choses qui, avec le temps, vont commencer un petit peu à s'effriter. On a toujours, encore une fois, en France, un côté très académique dans l'éducation, dans nos écoles, dans nos institutions. Donc c'est des choses qui mettent du temps à bouger, mais bon, ça pousse derrière.
encore des questions?
C'est une question avec des réponses très compliquées à donner, parce que là on va se perdre dans des statistiques, des choses. Globalement, sur le plan des civilisations, on n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui. Après, est-ce qu'on lit du roman? La réponse va plutôt être non. Mais on n'a jamais autant lu et jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Après, il y a toujours des lecteurs de romans, il y a toujours des inconditionnels qui vont dévorer 2-3 bouquins par semaine. Donc le monde du livre n'est pas mort, loin de là. On n'a jamais vu autant de succès, on n'a jamais vu autant de millions de livres se vendre pour un titre. Ce sont des titres qui ont tendance, alors effectivement, à occulter tout le reste, mais aussi à attirer un peu en locomotive, à attirer un lectorat vers un genre. Je peux parler de Game of Thrones, pour ne pas le citer, pour la fantasy, même si la majorité des lecteurs de Game of Thrones ne liront pas autre chose que Game of Thrones en termes de fantasy, malgré tout, ça a attiré un lectorat dans ces univers. Quoi.
Quelqu'un d'autre a des questions? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui étaient là depuis le début. Merci à ceux qui sont venus par la suite. On espère que cette table ronde vous a plu.
On a tout donné.
Et on, ouais, il fait pas chaud. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde.